Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure tous les soirs et nous sommes ravis de recevoir ce soir Chantala Shivalingappa.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Un face-à-face avec soi-même, la matière, le son et la mort. Voilà ce que peut parfois la danse. Dans la pénombre, des formes lumineuses ondulent, le son claque, on croit à de la ferraille, à un mécanisme secret, et bientôt on voit des flammes, bientôt une vague bleue d'acier sous la lune ou des roseaux agités par le vent. Le décor pensé par Aurélien Bourri pour ce portrait dansé est une sculpture vivante qui emmène nos imaginaires sur des chemins changeants et votre maîtrise de la danse semble pouvoir la dompter. Vous vous rencontrez il y a plus de 10 ans, Chantala Shivalingappa, et vous présentez actuellement la pièce H. Si le titre reprend quelques lettres de votre propre nom et de l'un de ceux du dieu Shiva, il évoque évidemment la cendre dont vous recouvrez patiemment le plateau avant de dessiner par vos pas des cercles infinis. Le tout sur une musique composée par Joan Cambon pour la musique enregistrée et Loïc Schild pour la musique jouée en live. Et Dieu sait si elle est importante. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Ce spectacle se joue en ce moment dans la salle La Scala à Paris, mais jusqu'au 1er mars, mais il sera en tournée. Il va continuer sa tournée. Puisque je parle de cette image frappante de vous face à ce... comment on pourrait dire, cette chose vivante, on va commencer par l'écouter. Quand le spectacle commence, vous êtes dos au public et vous faites face à cette espèce de rideau qui bouge. Comment est-ce que vous le regardez pour la première fois où Aurélien Bourri vous propose ce décor-là ?
En fait, au début du spectacle, je suis donc très proche de ce fond, de ce grand papier, et je suis trop proche pour vraiment voir l'image que reçoit le public. Donc moi, mon image est beaucoup plus concentrée, vraiment sur... parce que je suis presque nez à nez avec cette toile. Et je l'actionne et j'ai un contact physique avec elle, plus que visuel, en fait.
Mais quand Aurélien Bourri vous la présente, d'une certaine manière, cette toile de papier, elle vous fait quel effet ?
Alors, le premier jour de répétition où Aurélien est arrivé en disant c'était une nouvelle session de répétition, on s'était quitté pendant quelques semaines et on se retrouvait, il m'a dit écoute, là j'ai trouvé une nouvelle piste, parce qu'on avait exploré plusieurs pistes qui avaient échoué pour une raison ou une autre, et il m'a dit assez content, j'ai trouvé une nouvelle piste et je pense que ça peut fonctionner et que ça a complètement du sens par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'était la première image est très surprenante en fait, parce que déjà c'est une surface qui est assez qui est très grande, une grande surface de papier et de papier noir, et tout de suite, j'ai commencé à... Enfin, ça m'a évoqué plein de choses très cosmiques, en fait. Voilà.
Ça fait aussi cet effet-là pour nous, et ça va changer d'ailleurs au fur et à mesure que l'éclairage bouge, que votre danse fait aussi vivre ce papier-là. Alors vous dites au fur et à mesure des répétitions, mais peut-être il faut parler de la forme que ça prend pour Aurélien Bory, ce portrait dansé, et puis peut-être de votre rencontre il y a quelques années.
Alors on s'est rencontrés, c'était à l'automne 2008 à Düsseldorf en Allemagne, et c'était lors d'un des festivals organisés par Pina Bausch. C'était toujours les festivals de Pina Bausch, c'était toujours des grandes célébrations, bien sûr, de danse et de musique, mais c'était surtout un moment aussi de rassemblement très fort dans cette célébration et dans cette joie de partager, de découvrir. Donc c'était toujours des moments extrêmement intenses où beaucoup de rencontres se faisaient. Et c'est là où j'ai vu pour la première fois le travail d'Aurélien, puisqu'il présentait son spectacle « Plus ou moins l'infini ». Et j'avais été complètement saisie par ce spectacle, par la poésie visuelle de tous ces différents éléments qui s'animent en fait et qui offrent une espèce de une vision d'un monde un peu féerique. Ça m'avait beaucoup frappée. Et puis on s'est rencontrés comme ça dans un couloir assez rapidement, mais c'était très chaleureux. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai commencé à aller voir tous les spectacles d'Aurélien qui passaient à Paris dans les années qui ont suivi. Et puis, quelques années plus tard, je préparais un nouveau projet avec une amie danseuse. On avait envie de proposer à Aurélien de nous aider, nous entourer dans la mise en scène. Voilà. Donc, je lui en ai parlé. Il a dit qu'il était prêt à explorer l'idée. Et je l'avais invité à l'époque à venir voir mon spectacle de danse classique indienne de Kuchipuli, qui s'appelle Akasha. Et il est venu voir ce spectacle. Et à partir de là, ça c'était en 2013... Et à partir de ce moment-là, on s'est revus assez régulièrement et on avait toujours des grandes conversations à propos de plein de choses, de la vie, de la danse. Le projet que je devais faire avec cette amie ne s'est pas fait. Et finalement, Aurélien a commencé à me parler de cette idée de portrait dansé. Il m'a expliqué qu'il y avait déjà celui de Stéphanie Fuster qui existait, qui travaillait sur celui de Kaori Ito. Et puis... Voilà, donc petit à petit, notre lien et nos conversations se sont tournées vers l'idée de faire ensemble un portrait dansé.
Alors, sans dévoiler l'intimité de ces conversations, mais de quoi on parle quand on commence à imaginer qu'on va faire le portrait de quelqu'un, et de quoi on parle quand on commence à imaginer que c'est de son portrait qu'il s'agit ?
En fait, on sait plus. Les conversations ont été plus vraiment une rencontre humaine. Après, oui, je pense qu'Aurélien avait certaines questions, certainement, qui ont motivé la direction des conversations. Mais on a parlé beaucoup de, par exemple, de la nature de la réalité, du côté scientifique, c'est-à-dire de l'astrophysique, la physique quantique ou la neurologie, comment le cerveau perçoit le monde. C'est des choses qui nous fascinent beaucoup. Mais aussi dans la pensée philosophique indienne ou d'autres cultures traditionnelles. Et de voir que ces deux approches, en fait, se rejoignaient, puisque finalement, la réalité est une. Donc, qu'on la voie d'un côté ou de l'autre, finalement, ça se rejoint quelque part. Donc on a eu ces conversations un peu cosmologiques, cosmiques
et philosophiques.
Et philosophiques, absolument, par rapport à la réalité du monde qui nous entoure, de l'univers, et notre place dans ce monde, notre perception de ce monde et comment nous l'habitons, comment nous l'approchons. Et bien sûr, à travers la danse, à travers le mouvement, à travers une vie qui est consacrée à la danse et qui est faite de danse. Voilà.
En quoi pour vous la danse est une de ces manières-là de d'être en contact avec la réalité ou d'être justement à l'un des points qui permet de l'approcher, cette réalité une?
Alors, vous savez, en Inde, on a ce dieu Shiva, qui est le seigneur de la danse, c'est un dieu dansant. C'est aussi le dieu de la destruction. Et je trouve qu'il incarne vraiment cette vision de la réalité qui est celle d'une réalité qui bouge, qui est en vibration. En fait, la nature de la réalité, comme le dit d'ailleurs la physique quantique aussi, c'est que au cœur de tout, il y a une vibration première, fondamentale, universelle, et c'est ça le fondement de l'existence quelque part. Donc dans la pensée indienne, le dieu Shiva incarne cette connaissance, en fait, de dire que le dieu qui danse est celui qui soutient l'univers. Et s'il s'arrête de danser, s'il n'y a plus de vibration et plus de mouvement, eh bien il n'y a plus d'existence. Donc le mouvement et la danse si on regarde l'univers autour de nous, tout est en mouvement. Que ce soit les planètes, les galaxies, les atomes dans notre corps, la nature autour de nous. Donc, on est en danse perpétuelle, même si on n'en a pas conscience. Et faire un chemin consciemment dans une danse, dans une technique qu'on apprend, technique très complexe, très précise. Et c'est ensuite aussi, pour moi, ça a toujours été le chemin d'arriver vers une espèce de... C'est un chemin intérieur en même temps. C'est un chemin intérieur qui se forge à travers cet apprentissage du mouvement qui donne une direction à sa vie, puisque c'est une discipline et une pratique quotidienne. Et c'est aussi quelque chose qui tourne à la fois le regard vers l'intérieur, très profondément, mais aussi énormément vers l'extérieur, une curiosité du monde et des autres qui nous entourent.
Est-ce qu'il y avait dans ce désir de dresser un portrait pour Aurélien Bory des questions classiques de rapport à votre parcours, à votre biographie, à qui vous êtes, où le portrait s'est tout de suite placé à un endroit plus, comme vous le disiez, cosmologique, philosophique?
Oui, on n'a pas eu tellement cette conversation un peu classique. Non, pas tellement en fait. Même pas du tout. Non.
Et ça n'empêche pas que vous vous reconnaissiez dans ce portrait-là? Dans ce portrait dansé? Est-ce que c'est une question qui vous intéresse?
C'est pas tellement mon regard. Est-ce que je me reconnais dedans? Puisque de toute façon, je ne vois pas ce portrait. Je suis à l'intérieur. Mais simplement, ce que je peux dire, c'est que ça me plonge dans un état qui est très... qui est vraiment l'état que je recherche, c'est-à-dire un état d'une espèce de lucidité, d'un calme intérieur et d'une acuité attentive très forte. Et ça, c'est un beau cadeau et c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est très proche de moi.
C'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps, mais qui se révèle différent au contact de ce décor, presque de ce cadre en fait, de ce cercle dessiné pour vous, Chantal Achivalingappa.
Mais je pense que le contexte scénographique tous ces éléments qui sont autour de moi, qui se déchaînent, qui dansent avec ou contre moi, enfin ça offre un environnement où ma personnalité ou ma présence est visible d'une manière particulière, comme si on avait mis une loupe presque quelque part. Mais encore une fois, comme je ne vois pas, moi c'est vraiment un ressenti de l'intérieur. Et aussi la relation qu'il y a avec le musicien, Loïc, qui est très importante pour le spectacle, qui nourrit vraiment chaque soir le chemin qu'on prend.
Qui, pour certains moments, joue, on va dire, plutôt sur le côté de la scène, et pour certains moments, joue vraiment face à ce mur de papier et avec ce mur de papier.
Mmh, mmh. Et je pense que dans mon ressenti, en tout cas, tous ces éléments voilà, créent un environnement qui est propice à je ne sais pas si je peux dire révéler quelque chose, mais un environnement qui en tout cas, oui, offre cette possibilité de voir un peu plus loin.
Nous allons voir les réactions des jeunes. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Voyons, toi, mon garçon, tu as quel âge ?
11 ans et demi.
Et tu danses ?
Oui.
Tu étudies la danse ?
Oui.
Bon, alors, dis-moi, tu n'avais jamais vu de danse hindoue ?
Non.
Jamais. Alors, ton avis ? Est-ce que tu as appris quelque chose ?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a frappé ?
Leurs gestes et leur expression de visage.
Ben, il a bien regardé. Il a bien regardé Srimati Rita, n'est-ce pas ? Et elle approuve. Elle approuve. Voyons, une jeune fille. Mademoiselle, vous avez quel âge ?
12 ans.
12 ans. Et vous étudiez la danse classique ?
Oui.
Bon, alors, votre impression. Vous ne connaissiez pas du tout la danse hindoue ?
Non, je ne connaissais pas la danse hindoue. Et je trouve que c'est très émouvant par les expressions et que c'est pas tout à fait pareil que la danse classique parce que la danse classique, c'est surtout les mouvements d'ensemble de membres. Et la danse hindoue, il y a beaucoup de mouvements de figure, de sourcils. Et c'est pas tout à fait le même genre. Et ça ne s'exprime pas de toute façon de la même manière.
On est en 1958 et ce sont des enfants qui découvrent la danse d'une interprète qui s'appelle Srimati Rita Devi et qui parle de danse hindoue. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Chantal Achivalingappa ?
Alors, j'imagine que, oui, la danse hindoue, c'est la danse qui vient de la religion hindoue, on va dire. C'est-à-dire que les danses classiques indiennes sont complètement reliées à la pensée spirituelle et à une... elles sont habitées par cette intention de célébrer et d'avoir accès à une dimension qui est au-delà du monde physique, qui est au-delà du monde qu'on peut percevoir avec nos sens quotidiens. Donc... C'est beau d'écouter ces enfants, très surprenant de voir. Je pense que surtout, ils sont frappés par les expressions du visage, parce qu'ils en parlent beaucoup.
C'est ce qu'ils disent beaucoup.
Ouais, mais... c'est vrai que dans la danse indienne, le visage est très mobile et très, très expressif. Il y a vraiment toute une technique par rapport à l'isolation de chaque muscle. Alors, la jeune fille qui parle des sourcils, il y a les yeux, même les pommettes, les lèvres. C'est vrai qu'il y a un travail très poussé. Mais l'expressivité va au-delà du visage, bien sûr. C'est le corps entier qui se met au service d'incarner un personnage, raconter une histoire. Ce sont des danses narratives qui parlent de la mythologie indienne, hindoue. Et il y a aussi une part de la danse qui est bien sûr de la danse pure, où là, c'est vraiment la beauté de la géométrie et l'harmonie de la géométrie du corps.
Et qui est vraiment mise, tout à l'heure on parlait d'un cercle comme ça, mais c'est presque aussi un écrin au sein duquel vous dansez, Chantala Shivalingappa, et qui fait que cette danse-là, vous disiez, on vous voit vous avec une loupe, mais moi je trouve qu'on voit aussi presque la danse en elle-même avec une loupe, comme si c'était la danse qui dansait pour nous, évidemment par votre intermédiaire ou médium, mais comme si vous étiez un point de passage précis pour que la danse apparaisse.
Mais c'est très beau que vous disiez ça. En fait, dans l'intention de la pratique de la danse indienne, et c'est vraiment une intention qui nous est qu'on reçoit dès le début de l'apprentissage, la danseuse ou le danseur cherche à disparaître pour laisser apparaître autre chose qui n'est pas la réalité individuelle, qui n'est pas la personnalité individuelle de chaque personne, mais de laisser danser quelque chose de beaucoup plus énorme et de devenir le véhicule de cela. Donc l'intention, elle est très clairement énoncée comme telle. Et l'apprentissage d'une technique extrêmement codifiée, extrêmement complexe, permet à certains moments, une fois qu'on a acquis un certain degré de maîtrise, ça permet de toucher un espace où il y a une grande liberté. Cette liberté vient après un certain nombre d'années de pratiques répétées du même geste. Et tout d'un coup, on arrive à un espace où il y a une grande liberté d'innovation, de possibilité. Et je pense que cette intention qui motive la forme est très importante et c'est elle qui donne tout son sens à la forme dans la danse indienne. Alors je voudrais juste te dire aussi que dans H, la danse, la forme de danse que je fais n'est pas de la danse indienne. Ça vient d'une... ce n'est pas un vocabulaire précis, mais c'est bien sûr nourri par mes racines.
Enseignement.
Ouais. Les racines qui viennent de la danse classique indienne.
Est-ce qu'on peut justement, pour faire le chemin jusqu'à cette danse que vous dansez dans H, est-ce que vous pouvez raconter votre propre rencontre enfant avec cette danse classique indienne et la manière dont vous êtes devenu le véhicule pour peut-être un autre vocabulaire que le vocabulaire très précis de la danse classique indienne ?
Alors j'ai commencé à danser quand j'étais assez jeune, enfin une jeune enfant, peut-être 4-5 ans, puisque ma mère est danseuse et je l'ai accompagnée dans ses stages, dans ses spectacles. Donc j'ai appris la danse classique indienne pendant une dizaine d'années avec ma mère, qui donnait des cours à Paris. Et puis vers l'âge de 15-16 ans, j'ai eu un grand coup de foudre pour ce style de danse classique qui vient du sud de l'Inde, qui s'appelle le Kuchipuli. Et je me suis lancée à corps perdu dans l'apprentissage de ce style à l'académie de danse de mon maître, qui est donc dans le sud de l'Inde, à Madras. J'ai passé de longs séjours pendant plusieurs années pour me former dans cette danse. Et pendant quelques temps, ça m'a complètement habitée de manière entière. C'est-à-dire que j'avais envie de rien faire d'autre et ma vie était consacrée au Kuchipuli.
Et vous sauriez dire pourquoi, avec un peu de recul, ce que vous aviez trouvé là ?
C'était vraiment une sensation physiologique presque. Y a quelque chose dans le Kuchipuli qui est bien sûr une énergie extrêmement puissante, qui relie, je trouve, beaucoup aux éléments de la nature, quelque part. Il y a quelque chose de très terrien. Les jambes sont ancrées dans le sol et très puissantes, avec un jeu de pieds très rapide, on frappe le sol. Le haut du corps, le torse, est plein d'ondulation, plein de grâce, et vraiment contraste avec cette puissance et cet ancrage du sol. Et puis c'est très aérien, il y a beaucoup de sauts. Donc la dynamique qui nourrit et qui propulse la forme du Kuchipuli est faite de ces contradictions qui donnent une sensation vraiment d'excitation très forte en fait. Et puis il y a bien sûr tout ce que la danse véhicule, les histoires de la mythologie indienne, et aussi la grande créativité de mon maître et de ses chorégraphies, l'élégance de ses chorégraphies, la puissance de ses chorégraphies. Je pense que c'est ce tout qui a fait qu'il y a eu ce moment de coup de foudre où j'ai vu une danse, une chorégraphie de mon maître sur le dieu Shiva, justement. C'était une danse très, très énergique et en même temps tellement gracieuse et accompagnée par une musique magnifique, non seulement la mélodie, mais aussi le rythme. Donc voilà, c'est tous ces éléments ensemble qui créent une danse absolument fascinante.
Et alors après ce coup de foudre d'adolescence qui devient plus qu'un coup de foudre d'adolescence parce que ça vous fonde vraiment, ouais. Chantala Shivalingappa, comment est-ce que justement vous cheminez vers quelque chose qui devient votre danse d'une certaine manière, à vous?
Alors j'ai donc passé quelques années à être dans le Kuchipuli, immergée complètement dans le Kuchipuli, et mon maître était quelqu'un qui avait la rigueur de la pureté du style, mais c'est aussi quelqu'un qui innovait énormément et qui a créé un répertoire immense, empreint de toutes ces innovations. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la spécificité de son style de Kuchipuli. Donc dès le début, j'ai eu quand même cet exemple de quelqu'un qui maintenait une rigueur et en même temps qui nous montrait la possibilité d'innover et d'injecter des nouvelles influences. Et que c'était comme ça qu'une danse traditionnelle, millénaire, ancestrale, qui a des racines très anciennes, reste vivante et continue à habiter chaque temps qu'elle traverse de manière pertinente. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment reçu de lui et qui a continué à m'habiter tout au long de mon chemin. Un chemin qui a donc continué dans une exploration plus ouverte de la danse, vraiment à partir de la rencontre artistique avec Pina Bausch. C'est avec elle et sa compagnie que j'ai commencé à travailler vers cette ouverture dans un chemin beaucoup plus contemporain et travailler à partir de pas de vocabulaire de danse en fait, produire du mouvement sans vocabulaire. Eh bien, comment fait-on ? Pour quelqu'un qui vient d'une technique très codifiée, ça a été une grande question. Ça a été un grand moment de révélation aussi, de voir que c'était possible et comment c'était possible en observant ces danseurs. C'était une leçon magistrale. Et puis voilà, petit à petit, de faire mes premiers pas dans ces directions-là. Et voilà, ça m'a menée jusque où je suis aujourd'hui.
Puisque vous en parlez, on l'écoute dans une archive de 1990.
Ich wirklich versuche zu wissen, also was habe ich denn jetzt zu sagen, jetzt, in dieser Zeit, in der dieses Stück entsteht, in dieser Zeit, in der wir leben.
Pour monter une nouvelle pièce avec la compagnie, on part toujours de la même question. Qu'est-ce que nous voulons exprimer aujourd'hui?
Konkret, in dieser Welt, mit allen Problemen, also da, wo ich bin, meinem persönlichen, alles, was ich höre, was ich sehe, mit dem Tanz, all den Menschen, die in der Kompanie sind, das ist erstmal der Anfang, also irgendwo, und da, wo bin ich jetzt?
Au début de notre travail, il y a alors notre vie quotidienne, avec tous nos problèmes, avec tout ce qu'on peut voir et entendre.
Ich spreche über uns, über die Leute, ich spreche über etwas in der Welt, ich spreche über unsere Angst, ich spreche über die Vergangenheit, ich spreche über die Zukunft. Irgendwie sind da so viele Dinge enthalten, irgendwo, dass man.
Je parle de nous, des gens, je parle du monde entier, de notre peur, je parle de notre passé et de notre avenir. La danse contient tant de choses.
Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass jemand also diese Vielfalt von allen Dingen, man sich wünscht, dass die da sind, meine ich natürlich nicht nur die ganze Technik. Das meine ich nicht damit. Diese Tanztechniken müssen gepflegt sein, damit man fertig ist. Also wenn man
je vise une certaine multitude, pas seulement des techniques de danse. Il faut bien sûr les travailler. Puis, je développe mes propres manières de bouger, de danser. Mais cette multitude réside aussi dans ma compagnie elle-même. Ils sont tous très différents, mi-acteurs, mi-danseurs, et ils ont tous leur propre caractère. Et avec tout cela, on fait peut-être des miracles, ou peut-être des spectacles qui se situent entre la réalité et le miracle.
1990, donc, la voix de Pina Bausch. Pour continuer de parler avec vous, Chantala Shivalingappa, de la manière dont votre danse est ouverte au contact d'autres et de chorégraphes. Mais quand on entend Pina Bausch dire que l'un des fondements de sa danse à elle, c'est la singularité de chacun des danseurs ou des danseuses qui composent sa compagnie, est-ce que ça va pas à l'encontre de ce que vous disiez avoir reçu comme enseignement, c'est-à-dire finalement n'être pas tant une singularité, n'être pas tant une personnalité qu'un point de passage qui cherche la disparition? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se sont comme ça un petit peu entrechoquées?
À vous l'entendre dire, on pourrait penser ça, mais c'est jamais ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça vraiment avec une grande fluidité, quelque part, malgré le fait que c'était totalement un monde nouveau, évidemment, qui s'ouvrait devant moi et que je me sentais complètement débutante, novice, dépourvue, enfin, tout à apprendre en même temps, donc magnifique cadeau d'avoir ça. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure par rapport à, dans la danse indienne, l'intention est de disparaître. Mais bien sûr, chaque personne apporte qui il est à la danse. Déjà physiquement, par la forme de son corps, les qualités dynamiques de sa physicalité. Et par la sensibilité de son imagination, de son interprétation. Mais je pense que en Inde, en tout cas, il y a une des idées majeures de la philosophie indienne, c'est aussi faire disparaître la structure individuelle en tant que l'ego.
Donc, L'apostrophe, j'imagine.
Oui, exactement. Dans le travail avec Pina Bausch, c'est vrai qu'elle cultive la singularité de chacun. Et il y a chez elle, bien sûr, des personnalités absolument fascinantes et tellement puissantes sur scène qu'on est... Moi, je me souviens passer des heures à observer les danseurs bouger, parler, jouer les petites scènes. Enfin, c'est un monde tellement fascinant de se plonger dans cette découverte-là. Et que ça apporte vraiment, comme elle dit dans son interview, c'était vraiment le reflet de la réalité. Le reflet du monde dans lequel on vit, avec toutes ces personnalités très différentes, toutes ces corpulences très différentes. Et je pense que le monde de la scène a toujours pour moi, en tout cas, cette double fonction. L'une, c'est d'être le reflet du réel, de nous donner à voir ce qu'est notre monde avec nos émotions humaines, avec nos peurs, nos amours, nos difficultés, et tout ce qu'il y a de beau et de moins beau. Et en même temps, d'ouvrir vers une autre dimension, d'ouvrir une fenêtre vers, voilà, cette dimension qui est celle de l'invisible, dont a beaucoup parlé Peter Brook, mais ça me touche beaucoup la manière dont il en parle. C'est vrai que c'est cette dimension invisible qui est tout le temps avec nous, dont nous faisons partie, dont nous sommes nés, et en même temps, nos sens n'y ont pas accès. Eh bien, le monde de la scène peut donner accès à cela. Et en même temps, être le reflet de ce que nous sommes. Et donc, il y a vraiment ces deux choses-là qui entrent en jeu et qui sont absolument fascinantes.
Vous parlez à la fois de la manière dont la danse indienne est fortement liée à la fois à la philosophie, à la pensée et à la mythologie, donc à des choses à dire, des choses à raconter, des histoires. Vous parliez même tout à l'heure d'une danse narrative. Et puis, on entendait à l'instant Pina Bausch dire « Moi, chaque création, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant, dans le temps que j'habite, dans le temps que je traverse, que mon corps traverse, que mes amis traversent. » Alors, est-ce que vous sauriez dire, pour H, l'histoire que vous racontez? Est-ce que c'est si simple que ça, Chantala Shivalingappa?
Alors, dans H...
Qu'est donc le spectacle que vous montrez en ce moment?
j'ai pas l'impression que c'est narratif à ce niveau-là ou dans ce sens-là. C'est narratif parce que ça raconte ou parce que ça exprime des émotions et des états, mais pas tellement une histoire. Pour moi, c'est plus l'incarnation de certaines qualités dynamiques de l'être humain, de ce qu'on traverse, de ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire de la vie et de la mort, de toutes ces contradictions qui font notre existence. Et pour moi, H, c'est plus une mise en lumière de cet ordre-là.
Comme des climats, quoi, des états, d'une certaine manière.
Ouais, j'ai envie de dire des états, des qualités, qualités d'être. Mm-hmm.
Et vous le disiez tout à l'heure, vous avez prononcé rapidement son nom, on va continuer d'en parler un petit peu de Shiva.
Je ne connais rien de plus hautain que le dieu Shiva. Même Osiris d'Égypte, vous savez, ce jeune homme de 5000 ans qui a passé par la mort et par la résurrection, nous dit « Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Si je porte un suaire, c'est pour vous montrer que je viens de là-bas. Donnez-moi la main, je serai votre guide. » Mais Shiva, dieu de l'Inde, comment l'aborder? Shiva qui danse avec une guirlande de crânes humains. Shiva qui a pris pour épouse deux symboles de sa toute-puissance. Et ce sera une femme tantôt belle, bonne et blonde, tantôt noire, méchante, tirant la langue et portant deux cadavres comme boucles d'oreilles. Shiva est-il bon? Il a donné pour digue sa chevelure au Gange dans la crainte que ce fleuve n'engloutisse la terre. Shiva est-il méchant? Il paraît que parfois il prend les yeux du singe et qu'alors dans les cimetières en l'entend hurler avec les démons. Est-il en vérité le créateur du monde? Il dévore à plein croc l'univers. Est-il en vérité le destructeur du monde? Il ressuscite tout en dansant ce qui l'a dévoré.
Culture par les temps qui courent. Marie Richeux avec Chantala Shivalingappa.
C'est un extrait musical de ce spectacle H. Et juste avant, c'était la voix de Makali Fall qui s'exprimait en 1958 sur la RTF à propos du dieu Shiva. Alors évidemment, c'est une archive qui est relativement datée, Chantala Shivalingappa. Quelle est la place qu'a occupé ce dieu dans l'imaginaire du spectacle créé avec Aurélien Bory?
Je crois qu'il a une grande place. Déjà, il a une grande place dans mon chemin. Et donc, forcément, il est apparu très souvent dans nos conversations. Et il a beaucoup nourri à plein d'égards ce spectacle, que ce soit dans la danse elle-même, dans la qualité de la danse, de l'énergie qui nourrit la danse, mais aussi dans ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le dieu qui incarne toutes les contradictions du monde et de l'existence. Et puis c'est le danseur divin qui a la géométrie parfaite. Et puis c'est le destructeur qui réduit tout en cendres, justement. Il danse dans les champs de crémation et il a le corps, la peau recouverte de cendres. Donc ça a été vraiment une grande inspiration, une inspiration centrale, je pense, à ce spectacle.
Comment justement s'est composé petit à petit votre danse pour ce spectacle-là?
Alors on est passé par plusieurs des explorations autour de plusieurs thèmes, que ce soit par exemple ça pouvait être un thème musical, ça pouvait être un thème scénographique, danser avec le papier ou danser dans la cendre. Et puis voilà, on est passé par des moments comme ça d'exploration de chaque thème et puis est resté ce qui nous semblait le plus intéressant. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi le mouvement par rapport aux intuitions d'Aurélien. Aurélien n'est pas chorégraphe, mais il a des intuitions très fortes sur le mouvement, la qualité, la dynamique et la forme. Et ça a vraiment nourri la manière dont j'ai chorégraphié les parties dansées de H. Je suis toujours assez fascinée par essayer de donner vie à la vision de quelqu'un. C'est quelque chose que je trouve qui est un exercice vraiment intéressant.
Il l'exprimait comment ? C'était quoi les mots qu'il utilisait pour vous donner quelques intuitions ou des pistes comme ça qui vous permettaient
très,
d'avancer ?
C'était très concret. Là, c'est bien quand il y a quelque chose de très fort et dynamique et puissant. Ici, peut-être, c'est intéressant d'avoir quelque chose de plus subtil et plus dans l'ondulation ou dans la fluidité. Ou parfois, c'était par rapport à certaines formes du corps, soit l'angularité. Soit encore une fois quelque chose de plus courbe. Par exemple, tout ce travail qu'on fait au sol, sur la cendre, ces images, ces formes géométriques, ça, on en a beaucoup parlé aussi.
Alors ça, faut décrire un tout petit peu pour les personnes qui nous écoutent. D'abord, on va commencer par décrire le moment où cette cendre est répandue, parce que d'une certaine manière... D'ailleurs, ce n'est pas le premier cercle. Le premier cercle... Les premiers cercles au sol, c'est un cercle d'eau. Et puis, il y a plein de cercles avant qui sont des cercles de vos yeux ou de vos bras, oui. Qui sont les premiers cercles d'ailleurs qui interviennent dans la danse H. Mais le premier cercle qui est dessiné au sol, il est fait avec quoi ?
Avec de l'huile, en fait. Oui, ce sont des spirales faites avec de l'huile pour qu'ensuite la cendre puisse... bien adhéré.
Comment n'y ai-je pas pensé ? Je me disais, mais ils sont tellement forts. Comment ça marche avec de l'eau, avec de l'huile ?
Avec de l'huile, et ce qui rend bien sûr, il y a une difficulté supplémentaire, puisqu'ensuite il faut marcher dans l'huile et voilà, se déplacer et faire ses formes dans l'huile avec la cendre. Et donc il y a le cercle d'huile, la spirale, on va dire, la spirale d'huile, recouverte d'une spirale de cendre, dans laquelle je commence à tracer avec les doigts de pied. Des cercles, et puis des spirales, et puis des espèces de points. Voilà, donc tout est très très circulaire, évidemment, puisque le cercle est vraiment la forme universelle, géométrique, cosmique la plus naturelle. C'est celle que l'énergie prend la plus naturellement. Et à travers ces dessins géométriques, ça nous rappelle aussi tout ce qui est le travail des kolams et des mandalas en Inde. Les kolams, ce sont des petites représentations géométriques que les femmes dessinent chaque matin à la poudre de riz devant les portes des maisons ou des appartements.
Qui a donc vocation à être éventuellement balayée par le vent ?
Absolument. En fin de journée, il n'y a plus rien, normalement. Mais c'est une manière d'accueillir le jour et d'harmoniser l'énergie, puisque chaque forme géométrique a un effet ou a une certaine énergie attachée. C'est bien sûr, encore une fois, tout ce qui fonde le yoga, c'est aussi l'alignement du corps humain dans une géométrie qui est en phase avec la géométrie cosmique. Et une fois qu'on est bien aligné, eh bien, on a accès à d'autres énergies. Donc voilà, tout ce qui est géométrique en Inde, il y a une attention particulière, il y a vraiment une connaissance et un soin particulier. Et on s'est beaucoup nourri de ça pour H.
Au moment où vous dessinez dans le sol, plusieurs fois je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a une intention de dessiner un cercle ou est-ce que c'est la danse qui l'impose le cercle ? Est-ce que votre danse, de toute façon, aurait dessiné un cercle ?
Eh bien, justement, ce cercle, le premier cercle que je fais avec les pieds, on va dire, qui est un cercle parfait presque, s'est révélé...
C'est vraiment comme un compas, quoi.
Hein. C'est vraiment comme un compas. Et en fait, c'est ce mouvement que je fais avec le pied, avec la jambe, et un mouvement qui existe dans le Kuchipuli. Et c'est au moment où je l'ai fait dans la cendre qu'on a compris que c'était un cercle parfait. Donc ça s'est vraiment révélé à nous à ce moment-là.
Pour revenir un tout petit peu sur ce moment où vous déposez la cendre, parce que ça va avoir des effets extrêmement importants sur les images auxquelles on va pouvoir ensuite accéder, Chantala Shivalingappa, il y a quelque chose de rituel, il y a évidemment quelque chose qui appelle la mort, qui appelle la crémation. La cendre vient chez nous, spectatrices et spectateurs, vraiment nous emmener sur un autre terrain. Mais c'est lequel pour vous, ce terrain de la cendre ?
Alors, en Inde, vous savez, on utilise la cendre sacrée, qu'on appelle bhasma. Elle est présente dans chaque maison. Elle fait partie du petit autel qu'il y a dans chaque maison. Et tous les matins, on se met une petite quantité de cette cendre sur le front. C'est une manière de se rappeler de la mortalité qui est notre réalité constante. Et donc cette mortalité qui aussi éveille l'approche de la vie et d'une vitalité avec la conscience de ce que la vie est tellement précieuse. Donc c'est un geste quotidien de se rappeler la mortalité. Et la cendre, c'est à travers la cendre qu'on le fait. La cendre, bien sûr, c'est ce qui reste quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, il y a de la cendre. Et en même temps, c'est ce qui permet la vie, c'est ce qui régénère la cendre. Donc elle est vraiment à cette charnière entre la vie et la mort.
Et on retrouve Shiva, c'est-à-dire que c'est à la fois la destruction, la trace de la destruction, mais en même temps, on répand aussi parfois des cendres sur un sol pour que les plantes poussent.
Exactement, exactement, c'est ça.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, décide fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée.
J'ai cherché, j'ai voyagé, j'ai appris, j'ai vu différentes écoles, différents professeurs. Je suis resté un an à Londres et ça fait actuellement 17 ans que je danse. Et c'est une petite fourmi, un danseur, qui chaque jour amasse un petit grain de poussière et le porte à la maison. Et je crois que c'est une persévérance beaucoup plus qu'autre chose. Mais c'est la chorégraphie qui m'intéresse le plus. Beaucoup plus que de danser, j'aime composer un spectacle. Et je dois dire que de plus en plus, quand on fait un spectacle de grande envergure, il est difficile de danser soi-même. Et je cherche dans la danse, au fond, une seule chose, c'est faire simple et faire vrai. Je cherche à ramener au ballet un public qui est petit à petit disparu et en éloigner peut-être un autre. Je voudrais que le ballet ne soit pas un art ésotérique seulement pour quelques initiés qui croient comprendre le ballet et finalement ne le comprennent pas vraiment. Je voudrais que les jeunes, petit à petit, aiment le ballet comme ils aiment le concert ou comme ils aiment le cinéma. Je vous dis, j'ai cherché uniquement cette simplicité, cette vérité du mouvement dégagée à la fois de l'expression et de la technique. Que la technique soit un abus d'expression et l'expression une technique, et non pas séparer les deux choses. De ne jamais faire un geste gratuit, de ne jamais faire une grimace pour toucher le public, d'avoir une plus profonde vérité. Et c'est pour ça que j'ai commencé dans la symphonie à dépouiller le danseur de tout artifice, à lui enlever le costume, à lui enlever le décor, à lui enlever la musique, pour qu'il apparaisse tout nu sur une scène devant le public, et que s'il avait quelque chose à dire, il le dise.
On est avec Maurice Béjart en 1960, Chantala Shivalingappa. Beaucoup de choses dans cette archive. Dans un premier temps, peut-être la manière dont il répète « je cherche simple et vrai ». Est-ce que vous le rejoignez dans cette recherche-là ? Dans
Absolument.
Une danse évidemment voilà, différente, mais dans la danse.
Ouais, ça me parle énormément, cet extrait que vous avez trouvé. C'est très touchant d'entendre sa voix et d'écouter ce qu'il a à dire. Oui, simple et vrai, absolument.
Mais ça passe par quoi ?
Ah, faire simple, justement. C'est toute une histoire, n'est-ce pas ? Ça passe par quoi, faire simple ? Par s'écouter ? Par essayer de s'écouter profondément et écouter le monde profondément, au-delà de tout artifice, de tout vouloir paraître, de tout désir d'être quelque chose, d'essayer d'écouter comment sont les choses en fait, comme disait Pina tout à l'heure, comment sont les choses maintenant ici, dans le monde dans lequel nous on vit, et comment est-ce qu'on peut être le véhicule de ça, pour soi-même et pour les autres. Le véhicule, ou être en contact avec ça, être honnête avec ça, le ressentir, en faire l'expérience, et puis l'exprimer, se faire le passeur de ça aussi.
Et il fait une sorte de distinction, c'est-à-dire la maîtrise technique ne doit aller que de pair avec l'expression. Enfin, c'est-à-dire comme si, à un moment donné, la question de la technique n'était plus une question.
Bien sûr, la technique n'est intéressante et valable que si elle est le véhicule de quelque chose. Qu'est-ce que la personne exprime? Qu'est-ce qu'il habite? Voilà. Et si la technique peut faire vivre ça, alors oui. Et sinon, elle reste une technique, mais c'est pas si intéressant.
Mais pourtant, vous dites à plusieurs reprises, et puis souvent, Chantala Shivanigapa, que la discipline et la manière dont vous pratiquez quotidiennement la danse est quelque chose qui est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus quitter des yeux cette maîtrise-là.
Non, c'est vrai que ça va ensemble. Et ça paraît contradictoire, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, mais qui n'est pas facile à mettre
dans
en mots.
Dans la répétition, d'un geste,
oui, je vais vous dire une citation que me répétait beaucoup Frédéric Le Boyer, c'est « Et passé maître, celui qui répète inlassablement le même geste et y trouve encore saveur nouvelle. » Et c'est vraiment ça, le chemin. C'est par la répétition d'un geste unique, presque, qu'on arrive à cet espace qui est d'une grande liberté, qui paraît complètement paradoxal. Et qui, c'est un chemin qu'il faut traverser, c'est ce chemin-là, qui nous amène à cette liberté et à cette... Quand je dis liberté, je veux dire aussi un espace très vaste, en fait, qui n'est pas fait de structure ou de fermeture, qui est ouvert complètement. Ouvert sur le monde, ouvert sur soi-même. Une espèce de grande lucidité, en fait.
Donc vous disiez d'ailleurs que le spectacle H vous permettait d'explorer, ou en tout cas presque d'être les deux pieds dedans. Ça veut dire que tous les soirs, lorsque vous entrez sur scène, que vous faites face à cette grande vague de papier qui va être décor, musique, couverture, tableau, mandala, plein de choses pour vous, vous y avez immédiatement accès. C'est parce que, comme si c'était localisé en vous, dans cet espace-là, cet espace plus grand.
En fait, au moment où je mets le pied sur scène, ça commence. ce qui est magnifique, je disais tout à l'heure, c'est cette chose de répéter inlassablement le même geste. En même temps, le geste n'est jamais le même, finalement. Et dans un spectacle comme H, c'est la même chose. Il y a tous ces éléments et tous les soirs, c'est la même chose et ce n'est jamais la même chose. Puisque l'huile se répand d'une certaine manière, la cendre se répand d'une autre manière, et chaque soir, on ne sait pas comment le papier va se poser ou pas se poser, se plisser ou ne pas se plisser. Enfin, chaque chose est un tempérament qu'on découvre à chaque moment qui va être différent. Et donc, on y réagit aussi différemment. Et c'est paradoxal, puisqu'il y a ce rituel de rentrer dans le spectacle, d'avoir certains gestes qui sont les mêmes qu'on va répéter, et en même temps il y a l'inconnu à chaque fois aussi.
Comment vivez-vous ce moment où d'un seul coup ce n'est plus un décor mais une surface sur laquelle vous marchez? C'est vraiment incroyable le moment où vous commencez à marcher sur cette feuille. Comme si, je ne sais pas, vous entrez dans le monde, vous marchez sur le ciel, vous marchez sur l'eau. Enfin, ce premier pas est vraiment un pas très, très émouvant pour nous.
Mm-hmm. Mais en fait, ce papier devient totalement vivant. Et quand il se pose au sol, en effet, il crée un autre espace, une autre dimension, une autre texture. Vous savez, on dit que la plante des pieds est peut-être la partie la plus sensible de notre corps, et c'est là où il y a toute une concentration de parties nerveuses aussi. Donc le contact avec le pied, je trouve, est quelque chose d'extrêmement délicat et extrêmement sensible. Et sur ce papier, il y a toujours cette adhérence à cette texture qui est très particulière. Après, je trouve que c'est pour moi très beau que les directions s'inversent. Quelque chose qui était horizontal, était vertical, devient horizontal. Et ça nous fait changer nos perceptions par rapport à ce qu'on disait sur la perception du réel et du monde, ces dimensions qui s'inversent, c'est très intéressant et très fascinant de pouvoir jouer avec ça en direct, en fait.
De même que votre danse et la proximité de votre corps, et parfois on ne sait pas exactement par quelle magie anime ce papier-là. À un moment donné, le musicien, Loïc Schild, entre en scène et lui aussi va animer, va faire de la musique avec cette matière. La présence de la musique et même la connaissance de la musique est très importante dans la danse que vous pratiquez et que vous avez pratiquée, là, vraiment la danse classique indienne. Mais comment est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien entre les deux?
Alors, dans la danse indienne, déjà, la danse et la musique sont vraiment indissociables. Ils font un seul corps. La danse se fait musique et la musique se fait danse. C'est vraiment un travail qui est totalement à corps uni, on va dire. Dans H, la rencontre avec Loïc a été vraiment assez décisive dans l'écriture du spectacle. On a rencontré Loïc assez tard dans le processus de création. Et c'est à partir de son entrée dans cet espace que les choses ont commencé à avancer aussi, à prendre des directions plus fortes et à se stabiliser. Donc la direction qu'a donné son travail rythmique et son écoute et son accompagnement ont vraiment constitué une partie très importante du spectacle. Je trouve que la présence de Loïc, surtout par son écoute, il a une qualité d'écoute qui est absolument incroyable, et une qualité d'être dans l'instant présent et d'accompagner justement toutes ces inconnues qui se jouent au moment même. Ça, c'est vraiment très important.
Il vous écoute danser, vous diriez?
Il a une qualité d'écoute qui est vraiment totale, qui passe par, je pense, la vision, bien sûr, et puis l'écoute des sons du papier, parce que parfois, il ne voit pas ce que je fais, par exemple. Il ne peut que entendre ce qui se passe à travers la réaction du papier. Et puis, il y a aussi ce que je trouve assez intéressant. En général, dans la danse classique indienne, et puis dans la danse, souvent, la musique et le rythme, la mélodie et le rythme, accompagnent la danse de manière assez... convenu, on va dire. On va ensemble, on fait les mêmes pas, on fait les mêmes rythmes. Et ici, on a un espèce de chemin un peu parallèle. Il y a des points de rencontre, et puis il y a des points où c'est vraiment, on est ensemble, mais sur deux chemins parallèles. Et je trouve ça très intéressant. Ça habille le spectacle d'une manière assez inattendue, parfois. Et puis ça donne une... Ça crée l'atmosphère, ça crée l'environnement au même titre que la scénographie, je trouve.
Mais justement, puisque vous parlez d'habiller et de scénographie, comment vivez-vous ce moment où ce n'est ni un mur vertical, ni la surface sur laquelle vous dansez, ni la surface sur laquelle vous dessinez Chantal Achivalingappa, mais comme une sorte de manteau, de capuche, de... Comment est-ce que vous vivez ce moment où d'un seul coup le décor même vous entoure?
J'ai envie de reprendre les paroles de Maurice Béjart qui disait tout à l'heure. Le danseur est dénudé, il n'y a plus rien. Et pour moi, c'est un peu ça, ce moment-là. C'est
ah bon, paradoxalement, au moment où vous êtes habillé par le décor.
Paradoxalement, exactement, parce qu'il y a ce décor qui voilà, qui vole, qui fait plein de choses incroyables, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. J'ai l'impression, voilà, c'est le moment où tout se, c'est presque le moment où tout se désagrège presque. Le papier est plus cette grande étendue, mais il va se détruire bientôt. Pour moi, oui, c'est le moment où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'artifice, en fait. Il n'y a plus de grand
décor.
Et il
reste vous ou vous participez de cette disparition?
Je ne sais pas. je vais me cacher un petit peu après. Donc, je passe dans un autre monde. Je passe dans une autre dimension où je reviens.
Est-ce que c'est une forme d'introspection, ce spectacle-là, Chantal Achivalingappa?
Je pense que c'est en tout cas une forme d'être... en lien, d'être au contact de ce qui nous habite au plus profond.
Et vous pensez que passer par le regard, tout à l'heure vous disiez finalement ça a été comme un travail de traduction des intuitions d'Aurélien Bory, donc c'est quand même passer par un point extérieur, peut-être pas son regard mais sa sensibilité, quelque chose qui vous a, alors évidemment tout travail apprend des choses sur soi-même, mais qui vous a déplacé, qui vous a emmené dans un endroit vraiment inconnu?
Je pense que l'endroit n'est pas inconnu, mais qu'il n'a jamais été montré de cette manière-là. Je dirais, c'est plus ça. c'est assez particulier avec H, surtout quand on regarde ce que j'ai fait dans la danse classique indienne, mais aussi dans toutes les autres collaborations. Je reste souvent dans quelque chose de très, et que j'adore, hein, de très expressif. Mais H est très introverti quelque part. Alors c'est vraiment avec et pour le public, mais c'est un chemin qui se fait par l'intérieur ou de l'intérieur. Voilà, et j'ai l'impression, voilà, que comme je disais, c'est l'endroit n'est pas nouveau, mais il est vraiment montré et révélé d'une manière totalement nouvelle.
Et on en revient presque à notre cercle du début. Si la réalité est une et qu'on peut la regarder de plein d'endroits différents, c'est peut-être juste un autre endroit depuis lequel vous regardez vous ou regardez votre danse. Peut-être.
Peut-être.
Merci beaucoup, Chantala Shivalingappa. Votre spectacle H, donc, on dit quoi, mise en scène? Mm-hmm. Par Aurélien Bory, se joue en ce moment à Paris, à la Scala jusqu'au 1er mars, le 24 mai à Istres et les 28 et 29 mai à Caen. Ce soir, c'était Frédéric Changenet à la réalisation Charlotte Roux. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luke Vauvillier, Marianne Chassor et Romain de Bec de Lièvre. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de France Culture. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à demain.